Chapitre 3. La gloire était venue, la fortune allait venir et aussi l'amour. Pendant que le public prenait d'assaut l'opéra pour entendre la jeune merveille, la foule des adorateurs battait son cœur en brèche. Et ce n'était pas soupirant vulgaire. Financiers et grands seigneurs, les plus nobles et les plus riches, sollicitaient la faveur de se ruiner pour ses beaux yeux. Les poètes aussi et les madrigaux et les rimes galantes pleuvaient chez Sophie. Peines et soins perdus, tous ces hommages ne touchaient pas l'insensible. Elle se souciait fort peu de la noblesse ou de l'argent et préférait, elle l'avouait hautement, les bravos d'un goujat à tous les petits vers du monde. Le soir, dans les coulisses, pour gagner sa loge, il lui fallait passer entre une double haie d'adorateurs accourus sur son passage. Il lui demandait peu de choses, l'aumône d'un regard. Il y en eut un, plus audacieux que les autres, qui essaya d'un enlèvement. Mais Madame Arnoux veillait. Elle pensait concilier ces deux choses, alors inconciliables, la sagesse et l'opéra. Nuit et jour, elle montait la garde autour de son trésor. Sa sollicitude maternelle avait les sentieux d'Argus. Elle comprit pourtant bien vite la difficulté de sa tâche et alors elle voulut marier Sophie. Elle lui avait trouvé un excellent parti. Un gentilhomme très riche, assez noble, plus vieux encore, autrefois bel esprit, galant et fort chéri des dames. La jeune fille repoussa bien loin ce vieil amoureux. Elle le trouvait très laid, très ridicule. D'ailleurs, il parlait de lui faire quitter l'opéra, et déjà, le théâtre était sa vie. Tout en cherchant un autre gendre, Madame Arnoux redoubla de surveillance, elle se multipliait. Mais avec les jeunes filles, c'est toujours la précaution inutile. On veille à la fenêtre, l'ennemi vient par la porte, on ferme la porte, il entre par la châtière. Le danger vint, d'où la pauvre mère ne l'attendait certes pas. Elle-même introduisit le loup dans la bergerie. Le roman d'amour de Sophie Arnoul, roman au seul chapitre, commence comme un opéra de la Comédie italienne. Pour cette fois, la reine de l'Académie royale prend le rôle de Mademoiselle Carline. Le scénario est charmant. Un grand seigneur est épris d'une jeune fille ravissante. Comme il veut être aimé pour lui-même, il prend un déguisement et ainsi se rapproche de celle qu'il adore. Il est jeune, il est beau, il est poète, il parle d'amour comme Don Juan avec l'accent de chérubin. La jeune fille est naïve et sensible, elle ne sait pas défendre son cœur, elle résiste un peu d'abord et enfin elle se rend. Il ne manque à ce scénario que la musique de Grétry, le duo d'amour où le héros peint sa flamme et le quatuor obligé de violon. Cependant, voici l'histoire. Un matin, un jeune homme se présente à l'hôtel de Ponthieu. Il demande un logement modeste. Il arrive de sa province par le coche et ne connaît personne à Paris. Il appartient à une honnête famille et se nomme Dorval. Madame Arnoux, qui sait son monde, accueille au mieux le nouveau venu. Il est fort joli garçon. Pour un provincial, il s'exprime bien. Ses façons, quoique un peu gauches, ont un parfum de bonne compagnie. On lui donne une des meilleures chambres. Bientôt, Dorval est presque de la famille. Il est si rangé, si studieux. Il a confié son petit pécule à son hôtesse, il lui raconte toutes ses affaires et ne fait rien sans ses conseils. Le soir, il conduit ses dames à l'opéra et il les attend à la sortie. Madame Arnoux, raffolée de ce nouvel ingénu, Sophie l'aimait. Hélas, oui, elle l'aimait. Tant et tant que certaines soirées après souper, elle mit sa main dans la sienne et tous deux, ils partirent. Un carrosse les attendait au coin de la rue, il les conduisit à une charmante maison, discrète, ombreuse, tendue de satin et de soie, un vrai nid d'amour. 3 jours entiers, la mère éplorée demanda sa fille aux échos de l'opéra. Qu'était-elle devenue? Quel était le ravisseur? Enfin, elle reçut une lettre destinée à la rassurer. Mais quelle déception! Ce provincial innocent qu'elle avait recueilli, c'était un roué, un séducteur. Elle avait réchauffé un serpent au foyer de sa famille. Ce Dorval, ce bon et doux Dorval, c'était le comte de Lauragais en personne, Brancas de Lauragais. Oui, la lettre était bien signée de lui. Il confessait sa perfidie en présentant d'humbles excuses. Pour acheter ses torts et comme preuve de sa bonne foi, il promettait le mariage à Sophie. Oui, le mariage, quand sa femme serait morte. Que faire ? Se résigner. Madame Arnoux se résigna. Mais elle avait battu le tambour comme pour ébruiter son malheur. L'aventure fit scandale. Ce fut pendant 8 jours la conversation de Paris. Sophie était la maîtresse du comte de Lauragais. Le comte l'adorait. Il était aux petits soins pour elle. Il était riche et royalement prodigue. Sophie fut entourée de tout ce luxe merveilleux du XVIIIe siècle. Elle eut une maison montée, des meubles exquis, des diamants d'un prix fou, des valets pleins ses antichambres, 2 carrosses, 6 chevaux dans ses écuries. Elle aimait, elle était heureuse. Peut-être croyait-elle qu'il durerait éternellement ces jours des premiers enchantements, ces mois bénis des premières amours. Ce fut un singulier ménage que celui de Lauragais et de Sophie. Jamais pourtant union libre ne fut mieux assortie. Lui si excentrique, si bizarre, elle si folle, si spirituelle. Entre tous, Lauragais était l'amant qui convenait à Sophie, et il semble qu'il ne pouvait, lui, choisir ni aimer une autre maîtresse. L'un par l'autre, ils se complètent si bien qu'on ne les conçoit guère l'un sans l'autre. Le comte de Brancas-Lauragais était en son temps un fou d'infiniment d'esprit. Amusant au possible et un peu dangereux, il ne faisait pas bon d'être le but de ses plaisanteries. Pour commencer, il s'illustra par ses aventures galantes et sa philosophie cynique. Esprit inquiet, remuant, mobile, enthousiaste, caractère fougueux et emporté, il eut tous les goûts et tous les travers. Il touche à tout, entreprend tout, ne s'arrête à rien. Chaque matin, au saut du lit, une passion nouvelle le saisit. Il veut être savant, artiste, poète. L'art de la porcelaine lui doit un progrès. Il écrit des mémoires scientifiques, il compose des tragédies, il fait en grand des expériences sur la fusion du diamant, des expériences qui coûtent cher. Aujourd'hui, fou d'anglomanie, il part pour Londres afin d'apprendre à penser. Des chevaux, lui demande le roi à son retour. Demain, promoteur de l'inoculation, il défendra son opinion avec tant d'esprit que le ministre, pour avoir raison, sera réduit à le faire enfermer. Enfin, dernière inconséquence, lui qui doit tout perdre à la Révolution, il appelle de tous ses voeux la Révolution. Immensément riche, il gaspille toute sa fortune et toute la fortune de sa femme. Il donne des deux mains, les yeux fermés, à tous et à toutes. Il donne pour ceci et pour cela, pour tout. 60 000 livres pour la salle de spectacle de son hôtel de la rue de Lille, 6 000 livres pour une édition des œuvres d'un savant inconnu, au Théâtre français pour la suppression des banquettes, 12 000 livres, pour des diamants qui seront fondus, 40 000 livres, 30 000 livres à Mademoiselle Robet, 100 000 à Mademoiselle Hennel, à Sophie Arnoux, des millions. En somme, grand cœur, obligeant ami, dit M. de Ségur dans ses mémoires, il ne lui manqua pour être un homme supérieur qu'un peu de fixité dans les idées. Il sut abuser de la fortune et porter noblement la pauvreté. Longtemps, on vit le plus magnifique et le plus galant des seigneurs, plus longtemps encore on le vit, mal peigné et mal vêtu, affecter la simplicité d'un paysan du Danube. Aussi, à tout instant, dans les mémoires, on retrouve le comte de Lauragais. À chaque page, c'est une anecdote, une aventure, une bizarrerie nouvelle. Une fois, c'est une de ses maîtresses qui loge dans une serre chaude. Elle vit là, dans une tiède atmosphère, comme une plante rare, entourée des fleurs les plus précieuses. À terre, il y a des tapis somptueux, les plus riches tapisseries cachent les murs. On ne la nourrit que des mets les plus exquis, elle a des fruits exotiques, des sirops d'outre-mer, les vins les plus recherchés. Cependant, à ce régime, l'infortunée se meurt de faim et de soif, elle gémit, elle veut partir. « Ingrate !» lui répond Lauragais, « peux-tu te plaindre de manquer de cette chose vile et commune lorsque tu as le superflu que tout le monde désire ?» Une autre fois, c'est pendant la guerre de 7 ans, colonel d'un régiment, il se distingue par la plus froide et la plus brillante intrépidité. 3 fois, il charge à la tête des siens, se jetant au plus épais de l'ennemi. On croit qu'il va solliciter un grade, une récompense. Point. L'affaire terminée, la bataille gagnée, il rassemble ses officiers et leur demande s'ils sont contents de sa conduite. D'unanimes acclamations lui répondent. « Je suis bien aise, dit alors le comte, que vous soyez satisfait de votre colonel. Moi, je ne le suis nullement du métier que nous faisons, et je le quitte. » Il donne sa démission, en effet, et dans une épigramme que quelques jours après il envoie à un courtisan qui gagne ses grades dans les antichambres de Versailles, on trouve ces vers. « Apollon peut rayer mon nom de son grimoire, et les 9 filles de mémoire, amies, n'en valent pas une de l'opéra. » Mais, en ce moment, pour Laura Gay, Sophie à elle seule était tout l'opéra. Cet amour caressait si délicieusement sa vanité, il était si envié, si jalousé. C'est que, de jour en jour, grandissait la renommée de Sophie. Son étoile montait dans le ciel. Il n'était bruit que d'elle, on ne parlait que d'elle, à la ville et à la cour. Sa voix, accent des sirènes, ravissait, ses grâces enchantées, son esprit éblouissait. Déjà, les nouvellistes à la main commençaient à vivre sur sa conversation, c'était à qui répéterait tous ces mots charmants qu'elle dépensait, la prodigue, sans compter. Les poètes qui se grisaient à sa table allaient partout, chantant ses louanges sur tous les modes. Son grand salon était trop étroit pour ses courtisans. Tant de bruit, d'éclat, de bonheur, d'amour, de louanges ne lui firent cependant pas négliger le théâtre, son piédestal. Elle aimait Laura Gay, mais au-dessus de Laura Gay, il y avait le parterre. Le parterre, voilà le rival heureux dans le cœur des grandes comédiennes, à lui, le dispensateur de la gloire, à ce capricieux qui applaudit ou qui siffle la plus grande place. C'est pour ce parterre que Sophie Arnoux travaillait. Pas à pas, on peut suivre ses progrès. À chaque opéra nouveau, le public admire en elle une perfection nouvelle. Et successivement, elle est applaudie dans Darnadus, dans Castor et Pollux, ses pièces favorites, et encore dans Psyché, dans Alphée et Arétuse, dans Pygmalion, dans Vertum et Pomone. À travers toutes les exagérations de l'éloge ou du blâme, il est facile de démêler la vérité et on peut se faire une juste idée du talent de Sophie Arnoux. Sa voix, du timbre le plus sympathique, était agile et souple. D'une grande étendue, elle manquait de volume et d'ampleur. Parfaitement maîtresse de ses moyens, Sophie savait dissimuler ses défaillances, elle gouvernait très bien sa voix et, dans les moments critiques, elle rachetait par la perfection de son jeu les imperfections de son organe. Un de ses admirateurs disait « Ses yeux chantent ». Il est certain qu'elle fut une grande tragédienne. Personne n'eut une plus profonde entente des effets dramatiques. Enfin, elle avait une sensibilité exquise, des explosions de passion imprévues, le don des larmes et une admirable vérité d'expression. C'est par son jeu, sans doute, plus que par son chant, qu'elle avait ému et attendri Garrick. Peut-être aujourd'hui ne serait-elle pas une cantatrice de premier ordre, mais elle serait toujours une éminente comédienne. Mais il faut la juger selon son temps et savoir ce qu'un opéra était alors. On n'était plus au temps où, du soir au lendemain, on improvisait une cantatrice, mais on était loin encore de nos exigences. Un opéra n'était guère qu'un drame dont les intonations étaient notées par le musicien. Pourvu que l'acteur se conformât à cette intonation, tout était bien. Il présentait la phrase comme bon lui semblait, pressait, ralentissait à son gré, il s'arrêtait sur cette note, escamotait cette autre, selon son caprice ou l'état de sa voix. C'était un ad limitum, un a piacere perpétuel. L'orchestre, d'un bout à l'autre, allait K1 K1, suivant comme il pouvait le chanteur à la piste, on s'en inquiétait peu. C'était affaire au batteur de mesure. Mais qu'était l'orchestration de 1773 ? Bien peu de choses, on peut en juger par ce singulier dialogue entre Sophie et le batteur de mesure lors des répétitions de Céphale et Pocris. Sophie cessant de chanter. « Qu'est-ce à dire, monsieur? Il y a, je crois, rébellion dans votre orchestre. » Le batteur de mesure. « Comment, mademoiselle, rébellion, nous sommes ici pour le service du roi et nous le servons avec zèle. Sophie, je voudrais le servir aussi, mais votre orchestre m'interloque. Le batteur de mesure. Cependant, mademoiselle, la mesure. Sophie, la mesure, quelle bête est-ce là? Sachez, monsieur, que la symphonie est la très humble servante de l'actrice qui récite. Ainsi pensait Sophie Arnoux, et c'était l'avis de tout le monde alors, même de Dora, qui s'en explique ainsi. Que de crises et d'accents qui ne se notent pas. À l'âme seule, alors, il faut que j'applaudisse. La chanteuse s'éclipse et fait place à l'actrice. Il échappe souvent des sons à la douleur, qui sont faux pour l'oreille et sont vrais pour le cœur. Ces quelques vers nous donnent le secret des triomphes de Sophie. La chanteuse s'éclipsait. Aujourd'hui, nous avons l'oreille plus près du cœur. 3 ans après ses débuts, souveraine au tripot lyrique, ainsi on appelait l'Académie royale, ô irrévérence, Sophie Arnoux pouvait dire « L'opéra, c'est moi ». Le public ne se lassait pas de l'entendre et de l'applaudir. Les directeurs qui lui devaient de fructueuses recettes étaient à ses pieds. Tout le monde l'aimait ou faisait semblant, tant on craignait ses épigrammes. Parfaitement heureuse au théâtre, elle l'était infiniment moins chez elle. Aux plates douceurs de la lune de miel, les giboulées de la lune rousse avaient succédé. Il y avait des épines à toutes les roses de cette chaîne de fleurs. Le ménage illégitime était un enfer, l'oraguet était une tempête. Ce n'était, entre les deux amants, que brouilles et raccommodements. Jamais on ne vit variation si brusque, adoration ou bataille, pas de milieu. Quand l'oraguet n'était pas à genoux en extase devant sa maîtresse, il la battait indignement. Il était jaloux, elle était coquette, ils étaient aussi emportés l'un que l'autre, arrangez cela. Aussi, jamais de trêve, jamais de repos. L'oraguet avait des violences inouïes, des soupçons burlesques. Alors, il cassait tout chez Sophie, il ébranlait la maison de ses jurons. Une heure après, il demandait pardon, il conjurait sa maîtresse d'oublier ses torts et ses injustes emportements. Puis, il remplaçait les glaces, les cristaux, les tableaux, les porcelaines, et il était prêt à recommencer à propos de tout et à propos de rien. Un ami de l'oraguet écrivait vers ce temps « Il faut à Sophie Arnoux une vertu singulière pour garder encore ce fou incorrigible. » Elle n'avait pas de vertu singulière, elle l'aimait. Elle avait de lui 2 enfants qu'elle élevait. Et, à vrai dire, l'oraguet a été le premier et l'unique amour de sa vie. Pour elle, il avait fait des sacrifices de toutes sortes. Il vivait avec elle publiquement, au grand jour, en dépit de l'opinion et des remontrances de la cour. Il avait abandonné complètement sa femme et sa maison. Peut-être Sophie pensait-elle qu'ils vieilliraient ensemble, qu'elle le garderait toujours. N'est-ce pas elle qui a dit « Quand on a brûlé des mêmes feux, on doit grelotter devant les mêmes tisons ?» Elle n'en menait pas moins une existence affreuse. Ces scènes de violence continuelle la brisaient. Souvent, elle arrivait au théâtre, les yeux encore rouges de larmes. Devenue vieille, elle ne songeait pas sans regret à ces orages de sa jeunesse, aux tempêtes de cette grande passion, et elle disait « Ah, c'était le bon temps, j'étais bien malheureuse !» Rullière, un de ces encadreurs ordinaires de l'esprit de Sophie, s'est empressé de rimer saint vers sur cette pensée. Un jour, une actrice fameuse me contait les fureurs de son premier amant. Moitié riant, moitié rêveuse, elle me dit ce mot charmant « Ah, c'était le bon temps, j'étais bien malheureuse !» Mais en 1761, elle ne savait pas apprécier ce bon temps, elle ne comprenait pas son bonheur. Cette tyrannie, ses fureurs l'excédaient. Cette union qui datait de 4 ans, cette union qui, par sa durée, faisait scandale à l'opéra, lui devenait de jour en jour plus insupportable. Pendant qu'elle hésitait à rompre, tant de liens la retenaient à cet amant, une absence de l'oraguet la décida. Il venait de partir brusquement pour Ferney. Coupable d'une tragédie, Électre, il était allé demander l'absolution à Monsieur de Voltaire. Sophie profita de ce moment de liberté. Son parti pris, elle fait atteler son carrosse un beau matin et, pêle-mêle, elle y entasse tout ce qu'elle tient de la générosité de son tyran. Dentelles, écrins, argenterie, diamants, étoffes précieuses. Elle y met aussi ses deux enfants, un petit garçon et une petite fille. Puis elle adresse le tout à l'hôtel Lauragais, rue de Lille numéro 17, avec un billet où il est dit que, résolue à reconquérir sa liberté, elle ne veut rien conserver qui lui rappelle son funeste amour. Madame de Lauragais, qui était une bonne femme, consentit à garder ce singulier envoi jusqu'à plus ample informée. Elle embrassa les deux enfants, en prit bien soin, regrettant fort qu'ils ne fussent point à elle. Restait à informer Lauragais de la rupture. Elle lui écrivit « Cher ami, vous avez fait une tragédie fort belle, si belle que je n'y comprends rien, non plus qu'à votre procédé. Vous êtes parti pour Genève afin de recevoir une couronne de laurier de la main de M. de Voltaire, mais vous m'avez laissé seul. J'use de ma liberté pour me passer de vous, ne le trouvez pas mauvais. Je suis lasse de vivre avec un fou qui a disséqué son cocher et qui a voulu être mon accoucheur, sans doute dans l'intention de me disséquer moi-même. Permettez donc que je me mette à l'abri de votre bistouri encyclopédique. » La lettre partie, Sophie prit peur. Elle avait tout à craindre d'un premier mouvement de colère. Elle implora la bienveillance du comte de Saint-Florentin, se mit sous sa protection et, pour plus de sûreté, se tint cachée pendant quelques jours. Peut-être fit-elle bien. Lauragais revint à Paris comme un ouragan. Il ne croyait cependant qu'à une méchante plaisanterie. Sophie l'avait si souvent menacé de le quitter. Ce n'était que trop vrai, hélas. On ne peut peindre, dit Bachaumont, l'état de démence où cette rupture a jeté M. le comte de Lauragais. Tout Paris est inondé de ses élégies. Dans la fougue de sa passion, dans son désespoir, il n'avait parlé de rien moins que de tuer son ingrate maîtresse, mais peu à peu la raison lui revint, et, avec la raison, la générosité. Il eut une entrevue avec Sophie, il se jeta à ses genoux, il la conjura de revenir sur sa fatale résolution. Elle résista. Alors, en véritable gentilhomme, il lui déclara qu'il ne se croyait pas quitte envers elle, et le lendemain, il lui envoya un contrat de 2000 écus de rente viagère. Sophie refusa l'argent comme elle avait refusé l'amant, mais Madame de Lauragais intervint. Elle conjurait l'actrice d'accepter, ne fût-ce que comme un gage de la reconnaissance qu'elle lui avait de ce qu'elle lui rendait son mari. Elle promettait de garder les enfants et d'en avoir soin comme des siens propres. Sophie ne résista plus. Elle était si heureuse d'être libre. Libre ? Pas tout à fait cependant. Lauragais parti, un successeur s'était présenté. Un homme calme, paisible, d'humeur égale, un homme aux passions tranquilles, au sens rassis, un financier pour tout dire. Ce successeur n'était autre que Bertin, le trésorier des partis casuels, Bertinus, comme on l'appelait. Ce financier, sensible autant que généreux, venait de quitter avec éclat Mademoiselle Huss de la Comédie-Française à la suite de la plus désastreuse des mésaventures. Navré des infidélités de cette perfide, qu'il avait eu la faiblesse d'adorer pour plus d'un million, il se tourna du côté de l'opéra, cherchant qui le consolerait. Il n'avait guère que l'embarras du choix, on le savait magnifique comme Fouquet, ce patron des financiers amoureux, mais il était fort indécis, tenant à mieux placer, cette fois, son cœur et son argent. C'est alors qu'il apprit la rupture du ménage Lauragais. Cette brouille lui parut un coup du sort et il résolut d'en profiter. Bien vite, il expédia des messagers, au comte d'abord, à Sophie ensuite. La galanterie du XVIIIe siècle avait son étiquette. Les négociations ne traînèrent pas en longueur, tout se passa le plus convenablement du monde. Lauragais se retira et Sophie présenta ses conditions. L'amoureux Bertinus consentit à tout, ne demandant lui que bien peu de choses en retour, un peu d'amour ou quelque chose d'approchant. Il ne serait pas exigeant, n'ayant jamais été gâté par Mademoiselle Huss. Il jurait de n'être jamais jaloux. Tout était dit, le règne de Bertin commençait. Mais bien vite, Sophie se lassa de cette existence platement monotone, de cet amour fade à donner des nausées, de ces adorations placides. combien lui eût paru délicieuse, en ces jours de bâillement, une des colères de l'Auragais. Il la regrettait aussi, lui, et depuis qu'il avait perdu, il était comme une âme en peine. Mais voilà qu'un soir, dans les coulisses de l'opéra, les deux amants se trouvèrent face à face, leurs yeux se rencontrèrent, toutes les rancunes furent oubliées. Le triste Bertinus rentra seul ce soir-là, et le lendemain, la chronique scandaleuse enregistrait le raccommodement de Sophie Arnoux et du comte de Lauragais. Dans le public, on prit parti pour le financier. On savait ce que lui coûtait son règne d'un matin. Pour se faire supporter, il avait déployé toutes ses séductions. Il avait dépensé plus de 20 000 écus, payé les dettes de Sophie, marié une de ses sœurs. On ne manqua pas de dire qu'il était dupe et victime d'une ingénieuse spéculation. On ajoutait que la réconciliation des deux amants faisait plus d'honneur à leur constance qu'à leur bonne foi. C'était pure calomnie. Désintéressé et indemnisé par Lauragais, Bertin ne perdit rien, en définitive, que la plus charmante femme de Paris. C'en était assez pour expliquer sa désolation. Quelques jours plus tard, à la Comédie-Française, deux jeunes gens placés derrière Sophie plaignaient hautement Bertin. Fallait-il que ce galant homme, ce financier si riche, rencontrât si ingrate et si infidèle maîtresse, lui si facile, si généreux, bon, sensible, aimable. Impatientée, Sophie se retourna. « On voit bien, dit-elle, que ces messieurs ne l'ont pas eu. »